L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Alors aujourd'hui, nous parlons de la journée japonisante du 17 avril prochain avec Doris Corny du DU japonais Langues et Cultures qui nous présentera l'événement et son programme. Bonjour Doris Corny.
Bonjour.
Alors puis nous écouterons Latoum nous parler de leur représentation de cette année dans une pièce qui s'intitule « Presque égal à ». Enfin, nous écouterons la chronique cinéma de Maxime, mais c'est parti tout de suite pour notre invité du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Doris Corny, vous êtes coordinatrice pédagogique du DU japonais et enseignante également. C'est un DU japonais qui organise cette journée japonisante du 17 avril, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. C'est le DU japonais et plus particulièrement, ou plus précisément, l'équipe de la Maison des Langues.
D'accord, ok, organise. Ça marche. Et alors, d'où vient cette initiative?
Ça vient d'un partenariat entre le directeur de la Maison des Langues, Pierre Salam, et moi-même, quand on a décidé de mettre en place le DU japonais Langue et Culture l'année dernière. On s'est dit que ce serait bien d'avoir un événement pour promouvoir un petit peu le lancement de cette nouvelle formation. Donc d'accord. On a fait la première édition l'année dernière.
Et bah c'est une nouvelle formation du coup.
C'est une nouvelle formation qui a commencé en septembre 2023.
D'accord.
Donc la première session est en train de se terminer, se termine début du mois de mai. Et on va continuer l'expérience l'année prochaine avec une nouvelle session.
Et alors, en quoi consiste cet événement de la journée japonisante et à quel public ça s'adresse?
Alors, ça s'adresse à absolument tout le monde. Les personnes de l'université, aussi bien étudiants que personnel de l'université, mais aussi les personnes extérieures qui souhaitent venir participer à l'événement. Tout le monde est le bienvenu. Qu'est-ce que cet événement? Eh bien, en fait, on avait envie de faire découvrir le Japon, la culture japonaise et la langue japonaise de façon un petit peu différente, c'est-à-dire pas aller sur les sentiers battus, essayer de faire découvrir des éléments culturels qui ne sont pas forcément mis en avant quand on a des événements autres.
Okay.
Donc de faire découvrir de nouvelles choses. Alors on a des choses qui sont assez classiques aussi, hein, bien sûr, mais l'optique de départ était quand même de faire découvrir des nouveaux éléments.
Eh bien, on va parler justement plus en détail de ce programme. Alors d'abord, on remarque que les différents événements de la journée ont lieu sur 4 lieux différents, c'est bien ça?
Tout à fait. Alors oui, 4 lieux différents et puis une pléthore de salles entre ces différents lieux.
Alors ce sera quoi ces lieux du coup, où se situent-ils?
Alors c'est tout sur le campus du Mans. On a la Maison des Langues qui accueille la plus grande partie des événements ateliers culturels et linguistiques, on va dire. Après, on a des événements sportifs qui sont accueillis soit par le SUAPS, soit par le gymnase de l'INSPE.
D'accord.
Également. Et on a le club lecture qui se passe toujours à la bibliothèque universitaire, donc on les a laissés à la bibliothèque universitaire pour l'occasion.
Alors durant cette journée, on aura droit à des ateliers, des conférences, mais aussi des documentaires vidéo. Alors on va d'abord se porter sur les ateliers, notamment sur des dégustations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, alors on aura des dégustations au fur et à mesure de la journée, à la fois sucrées et salées.
Okay.
On a essayé de faire ça de façon assez générale. On va avoir dégustation de thé et pâtisserie, parce que ça va bien ensemble, donc voilà. Et quand on dit pâtisserie, bien sûr, on dit pâtisserie japonaise, mais on va faire ça de façon un petit peu plus originale que juste des mochi, comme ce que les gens peuvent avoir l'habitude de voir, puisqu'on va être notamment sur des taiyaki. Taiyaki, en fait, ce sont des pâtisseries... sur le principe d'une gaufre, mais en forme de poisson et fourré Alors, normalement, c'est fourré à la pâte de haricots rouges. On en aura fourré à la pâte de haricots rouges, mais on en aura sans doute fourré à d'autres choses aussi. Donc, à venir découvrir sur place.
Alors, des taiyaki. Alors, moi, j'avais noté takoyaki. J'ai mal noté ou c'est autre chose ?
Non, c'est autre chose. Okay. Ça, c'est pour notre dégustation salée. Effectivement, les deux mots se ressemblent. Donc, ça peut prêter à confusion. Mais takoyaki, c'est quelque chose que je pense que les personnes qui ont lu des mangas japonais ou regardé des animés japonais ont déjà vu. C'est des boulettes fourrées au poulpe.
D'accord.
En fait, qui sont faites dans un moule où on fait tourner en fait la préparation pour obtenir une boule. Quand on le mange, ça sort juste de la poêle, on va dire. Donc c'est chaud plus.
Il y a beaucoup de produits de la mer, j'ai l'impression, dans la gastronomie japonaise.
Tout à fait. C'est le fait d'être sur une île. Hein, forcément, on est tourné vers la mer. Surtout que les villes sont toutes le long de la côte au Japon, donc forcément, voilà.
Alors, parmi les autres ateliers, il y a quelques termes qu'il va falloir nous expliquer. Par exemple, le tournoi de Jankenpon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, le Jankenpon, en fait, c'est très facile à expliquer. C'est la version japonaise de pierre, papier, ciseaux.
D'accord. C'est la même chose ou il y a une différence quand même ?
C'est la même chose. Sur les règles, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que le Japon en a fait une grosse part de sa culture. Et que, notamment de l'école primaire à la fin du lycée, voire même après dans la vie, tout se règle à coup de Jankenpon. Donc, s'il y a une quelconque décision à prendre et que tout le monde n'est pas d'accord, ça sera réglé immédiatement à coup de Jankenpon. Et ça va très très vite quand les Japonais le font.
D'accord.
Donc, n'essayez pas de vous incruster dans un tournoi de Janken, vous n'arriverez pas à comprendre ce qui se passe. Ça va bien trop vite pour nous.
Mais du coup, notre papier-ciseau, il est directement issu de ce jeu-là
Il est directement issu de ce jeu-là,
d'accord,
ouais.
Ok.
Ouais, on a pris ça, c'est toute l'Asie qui joue à ça. Et je pense que ça a été exporté de là-bas, on l'a intégré, nous.
C'est étonnant.
Mais en version plus lente.
Alors, certains ateliers seront donnés par des intervenants. La découverte du japonais par Keiko Nakamoto, un atelier d'écriture sur le haïku par Pierre Salam et une initiation à la danse Yosakai par Japan Zone. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus sur tous ces éléments ?
Oui, alors on a la chance d'accueillir beaucoup d'intervenants extérieurs cette fois-ci, puisque c'est la deuxième édition, donc on a essayé d'agrandir un petit peu notre panel d'ateliers. Effectivement, pardon, on va avoir des intervenants extérieurs, alors qui sont très variés, puisque vous avez nommé Pierre Salam, c'est le directeur de la Maison des Langues, qui est spécialisé dans les ateliers d'écriture, et en fait qui nous a créé un atelier spécifique sur le haïku. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est.
Qu'est-ce que c'est le haïku ? Vous pouvez expliquer,
Le haïku, c'est une forme de poésie japonaise qui est très particulière parce que c'est trois vers avec une métrique fixée.
D'accord.
Donc le premier vers, c'est 5 syllabes, le deuxième 7 syllabes et le troisième 5 syllabes. Normalement, traditionnellement, dans les haïkus japonais, il faut qu'un haïku ait une dimension saisonnière. C'est-à-dire qu'on va avoir des haïkus qui vont représenter le printemps. Il y a un mot qui représente le printemps qui sera utilisé, par exemple, quand on écrit un haïku au printemps.
Parce que la poésie japonaise, elle est très axée sur la contemplation de la nature, c'est ça ?
Oui, on a beaucoup d'éléments, alors pas que dans la poésie, mais dans la culture japonaise, dans son ensemble, en fait, on a vraiment tendance à, considérer que ce qui est éphémère est beau.
Ah, ok.
Donc,
c'est une belle idée, ça.
Voilà, c'est pour ça que notamment les saisons sont très appréciées, parce que forcément elles sont éphémères.
Ouais. Et c'est pour ça que le haïku est si court, du coup.
Et c'est aussi pour ça que le haïku est si court, parce qu'on ne dit pas l'intégralité des choses dans un haïku. On laisse une part à l'imaginaire de celui qui écoute ou celui qui le lit.
Alors, il y a un autre mot qui nous faut éclairer dans les ateliers que j'ai cités tout à l'heure, c'est La danse Yosakoi, qu'est-ce que c'est ça ?
Alors, la danse Yosakoi, c'est une danse traditionnelle japonaise qui est dansée notamment dans les festivals.
Okay.
Et il se trouve que sur le Mans, on a une association qui s'appelle Japan Zone, qui fait pas mal de choses différentes. Mmh. Et entre autres, ils ont toute une partie de leur équipe qui fait des démonstrations de danse Yosakoi, démonstrations okay. et initiations. Et donc, ils ont accepté de venir en faire pour l'occasion.
Et ça ressemble à quoi en fait si vous pouvez le décrire.
C'est très difficile à décrire.
C'est plutôt rapide, c'est plutôt lent.
C'est... Très sincèrement, j'arriverai pas à vous le décrire.
Bah, allez voir sur YouTube.
Voilà,
à quoi
c'est
ça.
Ou venez voir pour l'initiation.
Venez voir l'initiation, c'est même mieux. C'est même mieux. Effectivement. Alors, un dernier atelier dont nous n'avons pas parlé, c'est l'atelier Kokedama, alors le seul qui nécessite une inscription pour participer. Mais qu'est-ce que le Kokedama ?
Alors Kokedama, c'est une question que tout le monde m'a posée depuis que le programme a été mis à jour. En fait, c'est des boules de mousse. Et quand je dis mousse, je parle de la mousse qui pousse sous les arbres.
D'accord.
Donc, on fait... par un procédé que je ne maîtrise absolument pas. On fait une boule avec cette mousse-là et on va pouvoir y planter un bonsaï, par exemple, un petit arbre, ou juste, moi, ce que je préfère, que j'ai juste vu en image, c'est on met des yeux sur la boule et ça fait une espèce, de visage vert okay. avec deux yeux. Hmm. C'est très mignon.
C'est entre la sculpture et le jardinage avec de la mousse.
Voilà, okay, c'est ça.
Alors, on passe à présent aux conférences qui auront lieu durant cette journée. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, ces différentes conférences ?
Oui, alors on a des choses assez variées, puisque, bon, bien sûr, on va parler un petit peu du DU japonais, langue et culture, histoire de présenter la formation et puis d'annoncer les inscriptions, puisque
D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce DU
Oui, bien sûr. Alors, le DU japonais, langue et culture, comme je vous disais, il a commencé cette année et on lance la deuxième session à partir de la rentrée de septembre. C'est un diplôme universitaire qui est à destination d'absolument tout le monde. C'est 120 heures de cours sur l'année, donc c'est quand même conséquent, mais c'est en soirée, de façon à ce que les étudiants qui sont en formation initiale ou les personnes qui sont en emploi puissent venir participer à cette formation. Donc c'est des cours qui ont lieu de 18h à 20h, deux ou trois soirs par semaine, okay. c'est-à-dire que les étudiants ont cours les mardis et les jeudis et un mercredi sur deux à peu près. Et l'objectif est, comme on l'a nommé, hein, langue et culture. Il y a des éléments linguistiques forts puisque l'objectif de la première année du DU, c'est d'obtenir le niveau 5 du Nihongo no Ryokushiken, plus connu sous le nom JLPT, qui est le test international d'aptitude en japonais.
Je ne répéterai pas le nom moi-même.
C'est un peu compliqué, effectivement. Mais c'est le test le plus connu sur le japonais. Donc, on essaye de leur faire obtenir ce niveau-là pour la première année.
D'accord.
Et le niveau supérieur pour la deuxième année.
D'accord, ok. Donc c'est assez intense, j'imagine.
C'est assez intense. Et par contre, comme je disais, il y a cette partie linguistique qui est vraiment axée sur obtenir le niveau équivalent à ce test à la fin. Mmh. Et il y a toute une partie culturelle où on va faire à la fois de l'histoire, de la géographie, des éléments culturels divers et variés. On a parlé du mariage au Japon, on a parlé de divers thèmes de ce style.
Super. Alors, je reviens quand même aux conférences dont on allait commencer à parler. Colin Champion donnera deux conférences. L'une d'entre elles portera notamment sur les instruments de musique. Vous saurez nous en présenter un ou deux des instruments de musique japonais ?
Oui, alors ceux qui connaissent un peu la culture asiatique et pas forcément la culture japonaise auront des idées assez précises des instruments parce qu'on les retrouve pas exactement semblables mais relativement proches un petit peu partout en Asie. Mais par exemple, on a le shamisen, alors c'est une espèce de guitare si on peut dire, mais qui n'a que trois cordes. Et qui n'est pas jouée à la main, elle est forcément jouée avec une plaquette en bois, on va dire, alors en bois ou en corne. Donc ça donne un son très très particulier. On va avoir aussi un autre instrument à cordes qui est une grande planche je ne saurais pas vous donner les dimensions exactes, mais ça doit faire presque 1,50 m, 2 m de long, avec énormément de cordes. Et là, les personnes qui jouent de cet instrument-là s'attachent des petites plaquettes au bout des doigts.
D'accord, ok.
Et c'est ces plaquettes qui vont venir pincer les cordes. On ne joue pas avec, avec les doigts directement non plus. Donc tout ça, ça donne des sons.
C'est surtout des instruments à cordes.
Il n'y a pas que des instruments à cordes, il y a aussi des flûtes, notamment des flûtes de bambou.
Okay,
différents styles de flûtes de bambou. Non, il y a une grande variété sur les instruments de musique japonais et asiatiques en général.
Alors, la deuxième... la deuxième conférence de Colin Champion portera sur, sur les films Ghibli. Alors, ce sont les films de Miyazaki, c'est ça, les films Ghibli ?
Les films... Alors, c'est notamment Miyazaki, effectivement, mais c'est le studio Ghibli, donc il y a un petit peu plus que Miyazaki.
Oui, c'est pas que Miyazaki.
Voilà. Alors, il y a Miyazaki père, il y a Miyazaki fils, et il y a quelques autres réalisateurs aussi.
Alors, il y a une autre conférence qui portera sur, sur le manga. Est-ce que c'est par le manga que la culture japonaise a, a fait son entrée en Occident, et tout particulièrement en France? Et donc, le manga et puis leur, leur conversion en animé, notamment du coup par les studios Ghibli.
Alors, je pense que c'est dans l'autre sens. Je pense que c'est l'animé qui a amené le manga en France et en Europe. Et en Occident de façon générale. Parce que si on regarde, on a eu des chaînes de télé qui ont, pour enfants qui ont commencé très rapidement à passer des animés. Et les animés
au
japonais
Club Dorothée,
ont très bien,
notamment.
Et les animés japonais ont très bien marché. Et à la suite de ça, on a commencé à voir les mangas arriver. Au début, les mangas, c'était un peu timide. Hein. C'est pas forcément évident de commencer dans le sens de lecture opposé de ce à quoi on est habitué. Donc, je sais que même au tout début, il y a des mangas qui ont été réédités à l'inverse.
Les éditeurs ne savaient pas les.
Par
commodité pour les Français,
retourné le manga, ils ont changé l'intégralité des.
Mais aujourd'hui, on les lit dans le bon sens et c'est même devenu un phénomène massif en France. Alors, on en saura davantage aussi sur, sur comment voyager au Japon avec une autre conférence. Parce qu'il y a des choses importantes à savoir quand on va au Japon.
Alors, à vrai dire, c'est moi qui fais cette conférence-là.
Ah.
donc oui, il y a des choses qui sont intéressantes. Là, plus que faire attention à quoi que ce soit, c'est vraiment donner des trucs et astuces pour des bons plans pour voyager au Japon. Alors pas des bons plans dans le sens ça vous permettra de gagner des sous sur votre voyage, mais plus des choses à savoir qui vous permettront de pas trop vous embêter sur place, de faire un voyage en toute sérénité, sans trop de stress.
Durant la journée seront également projetés deux documentaires, Japon, la fin du pacifisme, et Death Note, un reflet du Japon. Donc on voit qu'il y a encore ce lien avec l'animé, le manga japonais, qui est apparemment assez important.
Tout à fait. Alors, il se trouve que ce sont des documentaires d'Arte.
D'accord.
Qui sont disponibles à la demande, donc vous n'avez pas besoin d'attendre la
journée je crois que celui sur Death Note, je l'ai déjà vu en plus, je crois.
Mais quand je l'ai trouvé, en fait, je me suis dit que ça ferait une bonne introduction à la conférence de Manga Pop sur la genèse du manga des origines à nos jours, de faire un petit détour par un manga qui est un animé, surtout là, dans ce cas-là, qui est quand même très connu de tout le monde, je pense, aujourd'hui. Il y a peu de personnes qui n'ont pas entendu parler de Death Note, en tout cas pour les personnes qui lisent des mangas ou regarde des animés.
En tout cas, si vous ne connaissez pas, allez voir. Que vous aimiez le manga ou non, d'ailleurs.
Tout à fait.
Mais ce n'est pas fini. La journée japonisante, c'est aussi une exposition à la Maison des Langues. Vous l'avez évoqué au début de cette émission. C'est aussi une sélection de livres sur le Japon à la BU et des initiations sportives. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces différents éléments?
Alors, on a la chance d'avoir même trois expositions à la Maison des Langues cette année. On va avoir une exposition de bonsaï. Donc ces arbres miniatures, puisqu'on a la chance au Mans d'avoir une association qui s'appelle Des Amis du Bonsaï et qui ont accepté de venir exposer certains de leurs arbres. On va aussi avoir une exposition de céramique raku. Donc le raku, c'est une façon de faire de la poterie. Dans ce cas précis, ce sont des animaux en céramique qui sont réalisés par l'artiste sculptrice Johanna R., qui est aussi local, originaire du Royaume-Uni, mais qui est installé en Sarthe depuis assez longtemps. Et enfin, on va avoir une exposition de kimono et hobi, donc les ceintures qui vont avec. qui vont être exposées par Aline Mazurier, qui fait partie de l'association Japan Zone.
Donc les kimonos qui sont utilisés dans différents sports.
Là, on n'est pas sur les kimonos de sport, on est vraiment sur kimonos traditionnels et puis assez anciens pour certains, visiblement, d'après ce qu'elle m'a dit.
Oui, c'est vrai que les kimonos, c'est pas forcément ce qu'on met pour le sport. En fait.
C'est pas forcément ce qu'on met pour le sport.
C'est leurs vêtements, en fait, tout simplement.
C'était les vêtements traditionnels et même aujourd'hui, c'est pas rare de croiser des gens en kimono dans la rue. Mm. On n'a pas cette différence entre habits traditionnels et habits modernes comme on a en France. Pour eux, c'est des habits comme les autres. Donc, c'est même des habits qu'on va mettre plutôt pour les grandes occasions. Il y a des personnes qui en portent tout le temps, mais en général, on va en porter pour les mariages, etc. Grandes occasions.
Alors, je reviens rapidement simplement sur les trois sports du coup qu'on pourra expérimenter, le Kyudo, l'Iaido et l'Aikido. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots en quoi ça consiste, ces différents sports?
Oui, alors, l'Aikido, je pense que c'est celui qui est le plus connu des auditeurs. Ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que c'est un art martial qui est basé sur la non-violence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attaque dans l'aïkido, on est plutôt sur la défense.
En fait, on utilise la force de l'adversaire, c'est ça?
C'est ça, ce que j'ai lu, tout à fait. Ouais. Donc c'est un sport notamment, d'après ce que me disait le club d'aïkido du Mans, pour lequel on n'a pas de compétition.
Okay.
Puisque c'est pas un sport d'attaque, donc voilà, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Le Iaido, vous le connaissez peut-être plutôt sous le nom sabre japonais, mouvement de sabre japonais, donc on est avec un katana, hein, un mot que je pense que la plupart des personnes connaissent, le sabre japonais. Le Iaido, c'est pas juste faire des grands mouvements avec un sabre, c'est faire des mouvements très précis, dans une certaine séquence. Peut-être que certains connaissent les katas dans le cadre du judo ou des choses comme ça. Il y a des katas en Iaido, en fait, c'est que des katas. Mais l'objectif est
c'est de la chorégraphie avec du sabre, quoi.
C'est de la chorégraphie, mais dans l'optique, ok, je fais ce mouvement-là parce que quelqu'un m'attaquerait comme ceci, quelqu'un m'attaquerait comme cela. Donc c'est un apprentissage des formes du sabre, finalement, mais à travers une chorégraphie. Et enfin, le kyudo. Le kyudo, c'est le tir à l'arc japonais, dit de façon très simple. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on n'est pas du tout sur du tir à l'arc occidental. Hein. Bien sûr, les arcs sont très grands. Et ça se fait d'une façon aussi qui est très, très chorégraphiée.
Okay.
Les étapes sont prévues. On fait tel mouvement, puis tel mouvement, puis tel mouvement, et on déroge pas trop à la règle non plus. Mais c'est très beau à voir, et vraiment, pour les personnes qui n'ont jamais vu, je vous encourage à aller le voir, parce que c'est très intéressant.
Je vous remercie, le temps file. Est-ce que, en dernière question, toutes ces activités sont gratuites?
Toutes ces activités sont gratuites, l'entrée est libre et gratuite. On commence à 10h le matin, et on finit à 10h le soir.
Je vous remercie Doris Corny pour être venue nous présenter le programme de la journée japonisante le 17 avril. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir accueilli.
On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez gagner des places pour Sheldon et Neita le 12 avril à Jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Mononoke Hime, composé par Joe Hisaishi, le compositeur de presque tous les films de Miyazaki.
Thank you.
retour dans l'amphi pour écouter les comédiens de l'Atoum, la troupe de théâtre amateur de l'université, qui nous parlent de leur spectacle de cette année. Voilà, super, on écoute ça.
Plus on est de fous et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fous et plus on s'emmerde.
Je suis avec Arsène et Théophile de l'Atoum, une troupe de théâtre amateur à l'Université du Mans, pour venir nous parler du spectacle qu'ils jouent cette année à Ève le 9, 10 et 12 avril. Ils sont accompagnés de leur metteur en scène, Kéredine Ladjam. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
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 Alors d'abord, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce que c'est l'Atoum ?
Eh bien, l'Atoum, c'est l'atelier de théâtre à l'Université du Mans. On est une troupe de théâtre amateur qui rassemble pas mal d'étudiants et quelques personnes qui sont aussi de l'extérieur. Mmh. On fait chaque année une pièce de théâtre avec un metteur en scène professionnel. C'est un peu la touche en plus de notre troupe amateur. On a toujours un metteur en scène qui va choisir la pièce pour nous. Et du coup, chaque année, on va réaliser cette pièce sur l'ensemble de l'année pour les jouer jusqu'à, du coup, ici, à courant avril-mai.
Ok. Donc c'est une troupe qui, du coup, renouvelle ses membres tous les ans.
C'est ça, absolument. Alors, on en garde certains une partie, chaque année ça peut changer, chacun est libre de rester ou de continuer l'année d'après. Mmh.
Est-ce qu'il s'agit seulement d'étudiants ?
Non, là actuellement on est une moitié d'étudiants et moitié d'extérieur, ça peut être chômeur, travailleur ou n'importe quoi.
Mmh. Alors du coup, oui, comme vous l'avez dit, vous êtes encadré par un professionnel en fait. Qu'est-ce qui vous apporte alors, on verra ça, vu que Kéredine Ladjam est avec nous ce soir, on peut peut-être vous poser directement la question. Qu'est-ce que vous apportez en fait à ces étudiants
Bah, déjà, à eux de répondre. Après, moi, je dirais ce que j'apporte.
Je trouve que c'est une chance niveau théâtre d'amateur, parce que dans le théâtre amateur, il y a beaucoup de passionnés, et c'est bien, parce que c'est hyper important, le théâtre amateur. Mais c'est quand même une chance énorme de pouvoir travailler. Bah, justement, on a une salle, une vraie salle de théâtre. On n'est pas dans une salle de sport... ou un amphi vide, on a vraiment une salle où on peut répéter dans des conditions correctes et être encadré par quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, qui a déjà du boulon dans ce truc-là précisément de faire de la mise en scène.
Mmh. Donc il y a un bon cadre pour pratiquer, quoi.
C'est ça.
Kéredine, vous voulez ajouter quelque chose ?
Moi, je dirais juste quelque chose. Bien sûr, on connaît le mot amateur, on connaît ce que ça veut dire professionnel. Pour moi, la différence, c'est qu'il y en a qui vivent de ce métier-là. Mmh. Professionnel, c'est quelqu'un dont c'est le métier. Amateur, c'est une passion, même si le professionnel est la passion. Pour moi, il n'y a pas de théâtre amateur ou de théâtre professionnel. Il y a du bon ou du mauvais théâtre. Mmh. C'est tout. C'est ça.
D'accord. Ça marche. Alors, comme vous l'avez dit, du coup, l'Atoum crée une nouvelle pièce, met en scène une nouvelle pièce tous les ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle pièce vous avez présentée l'année dernière ? S'il y en a qui étaient là déjà l'année dernière
On était tous les trois là l'année dernière. Et du coup, la pièce de l'année dernière, c'était Les derniers jours de Judas Iscariot de Stephen Adley Girgis, qui est un dramaturge américain. Où du coup, c'était... une sorte de procès dans un purgatoire pour juger est-ce que Judas Iscariot a le droit d'enfin sortir de l'enfer ou...
D'accord. Donc on était plutôt dans la tragédie, la comédie. Quel était le ton ?
Ça restait une comédie où justement c'est pareil. C'était peut-être un peu plus sombre par moments sur l'année dernière, mais... De comédie, mais qui peut avoir des petits côtés noirs, cyniques, qui peut montrer des choses un peu plus sombres, mais toujours en gardant cette légèreté, cet humour. Mmh.
Alors cette année, vous présentez une pièce au titre curieux, presque égal à. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors juste une petite parenthèse, dans ce que j'apporte à l'Atoum, j'ai fait un choix. Un choix, c'est celui de travailler avec eux sur des textes et surtout sur des textes qui viennent d'ailleurs. Donc l'année dernière, j'ai travaillé avec eux sur un texte d'un auteur américain. Okay. Cette année, j'ai fait le choix de travailler sur un auteur suédois.
Okay.
C'est une pièce écrite par Hassan Kimiri. Malgré le nom à consonance arabe, c'est un auteur suédois qui travaille, vit aujourd'hui. Donc aussi ma touche, c'est des auteurs contemporains, c'est des auteurs vivants. L'année dernière, l'auteur américain est vivant. Aujourd'hui, on travaille sur un auteur suédois. Et cette pièce, elle est écrite par cet auteur. C'est un auteur très connu en Suède, très très joué. Beaucoup, jouer beaucoup. Moi, j'ai fait le choix de travailler avec eux sur une pièce qui a été écrite par lui, qui n'est toujours pas jouée en France. Voilà ce que je pourrais dire.
Comme l'année dernière, c'est une comédie, avec ses petits côtés un peu noirs, un peu cyniques parfois. Mais du coup, là, on n'est plus dans l'esprit un peu fantastique de l'année dernière. On part sur la réalité des gens, où on suit des personnages qui sont tous très différents. Dans quelle situation ils se retrouvent et quelles conséquences ont notre système, et particulièrement notre système économique, capitaliste, libéral. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur leur vie et sur tout dans leur quotidien.
Ça marche, on entrera plus dans ces détails juste après. Je voudrais juste revenir sur un point que vous avez soulevé, Kéradine. Donc en fait, l'idée, c'est de donner de la visibilité en France à un dramaturge qui est méconnu ici, c'est ça ?
Oui, en fait, moi, ce qui est important pour moi dans le travail, c'est d'abord, je suis un metteur en scène qui est passionné des textes et des textes d'auteurs vivants. J'ai toujours dit cette phrase, si on ne défend pas nos contemporains, nous n'aurons pas les classiques de demain. C'est-à-dire, c'est nos écrivains d'aujourd'hui. Et moi, ce que je voulais, surtout avec les jeunes, c'est de leur montrer que parfois, on est un peu nombriliste en France. C'est-à-dire, on pense qu'on est unique avec nos problèmes, qu'on a des problèmes de société. Et c'est intéressant de se rendre compte que les mêmes problèmes existent ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ailleurs on les regarde.
Ouais, d'accord, ça marche. Et alors, du coup, le choix de la pièce se fait de manière autocratique, entre guillemets. C'est vous qui choisissez la pièce et que vous proposez aux membres de l'Atoum ?
Oui, en fait, ce qui est fort avec Atoum, moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu chez eux. C'est que, en fait, quand ils font appel à un metteur en scène, c'est-à-dire ils font aussi appel à un univers. C'est-à-dire quand on fait appel à un réalisateur ou à un metteur en scène, un metteur en scène, c'est aussi un univers. Donc effectivement, moi, quand j'arrive avec mon univers, qui est un univers qu'ils commencent à connaître. Et du coup, oui, c'est bien, un metteur en scène, c'est lui qui choisit la pièce. C'est pas une commande de pièce, ils m'ont pas demandé, c'est qu'ils m'ont dit... ce qui nous plaît, ce qui est intéressant chez Atoum, c'est qu'il plonge dans l'univers d'un metteur en scène. Et c'est pour ça que j'ai choisi le texte.
Alors, dans le résumé de la pièce, on voit qu'on va suivre toute une série de personnages, vous en avez parlé. Est-ce qu'il s'agit donc d'une série de petites pièces ou alors d'une grande pièce où s'entremêlent plusieurs destins ?
Alors, on est sur une pièce qui n'est vraiment pas linéaire. On va suivre une espèce de sorte de puzzle où chaque personnage va venir de différents milieux sociaux. Chacun vont raisonner entre eux, vont se répondre malgré les différentes situations économiques, les différentes situations dans la pièce aussi.
Et du coup, il y a une forme un peu fragmentaire, c'est ça ?
Absolument, ouais.
D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces personnages, justement ? Est-ce que vous pouvez nous les présenter un peu ? Peut-être pas tous, peut-être qu'ils sont trop nombreux, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y en a certains dont vous voudriez nous parler ?
En fait, les personnages, comme disait Théophile, c'est une pièce à puzzle. Donc, il y a plusieurs personnages qu'on suit. En fait, ils sont. On va pas dévoiler tout parce que pour laisser un peu de suspense pour la pièce. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont de différents milieux sociaux. Et je les choisis aussi parce que c'est aussi des personnages, moi je pense, qui sont aussi proches d'eux. On suit des jeunes. Il y a des jeunes. Il y en a même qui sont jeunes diplômés. Il y en a qui découvrent la vie professionnelle et on a à peu près 6 ou 7 personnages centraux.
D'accord, ok. Oui, il n'y a pas un seul personnage central qui se détache un peu des autres, il n'y a pas de grand rôle quoi.
Non, en fait, moi j'ai pris le challenge aussi, ils sont dans Atoum, ils sont 20.
Donc il faut forcément des pièces.
Ils ont tous leurs personnages.
D'accord, ça marche. Et du coup, ces personnages qui sont différents, qui viennent de milieux, d'horizons différents, est-ce qu'ils ont quand même un point commun ? Qu'est-ce qui les rassemble, en fait, dans cette pièce ?
La pauvreté, au final, où c'est vraiment le truc où des gens qui, justement, ont vraiment absolument rien en commun, qui se rencontreraient même pas au quotidien, se retrouvent à pas forcément se retrouver dans des situations, les mêmes situations. Mais qui vont résonner de la même façon parce que ça vient de cette même racine de la pauvreté et de ce truc qui est un peu un cercle vicieux où on ne peut pas s'en sortir. Et c'est un peu ça le lien. Mais ça peut paraître déprimant, mais en réalité, la pièce est vraiment très drôle.
Parce que c'est quoi le propos de la pièce concrètement ?
La pièce, en fait, ça raconte comment le système libéral et capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui décide parfois de la vie et du parcours des personnes. C'est-à-dire, ils sont de milieux sociaux différents, mais on voit comment ce système, comment le capitalisme, en fait, pour être direct, frontal, cette pièce remet en question la méritocratie.
D'accord.
C'est-à-dire, elle remet en question cette idée, celle qui est « quand on veut, on peut ».
Mmh. C'est une idée très américaine, en fait.
Voilà. Et en fait, moi, aujourd'hui, et je pense que parfois, certains personnages de la pièce nous renvoient à la gueule, c'est que parfois, c'est quand on peut qu'on veut.
Oui, d'accord. Oui.
On a un personnage d'SDF, on a un personnage comme ça qui est là, qui circule dans la pièce, un personnage d'SDF qui est un mendiant, qui cherche de l'argent pour aller à un endroit. Mmh. Et en fait, s'il n'a pas l'argent, il ne pourra pas y aller. Et ça raconte aussi comment aujourd'hui, intellectuellement, parce qu'il y a le système bancaire qui est un peu au cœur de la pièce, et comment aussi aujourd'hui, ce système qui a normalement été pensé pour nous, comment il fait contre nous et devant nous.
Ça marche. Merci beaucoup pour ces éclairages. Arsène et Théophile, est-ce que vous voudriez nous présenter un peu les personnages que vous incarnez?
Alors moi, j'en ai trois parce que j'ai...
Bien dans
j'ai,
le micro.
Ouais, désolé. J'en ai trois parce que c'est trois, entre guillemets, petits niveaux, on va dire, texte, personnage. Alors, c'est un petit peu conceptuel. Alors, mon premier rôle, c'est une lettre de candidature.
D'accord.
Je suis la lettre de candidature d'un des personnages dont on suit l'histoire, qui est justement ce jeune diplômé qui est face... pour la première fois au monde du travail. Je joue une étudiante américaine des années 70 qui s'appelle Laura, qui est passionnée d'économie et qui est un peu... qui n'est pas un personnage central de la pièce, mais un peu un truc qui s'ajoute à l'esprit d'un autre. Et puis je joue le rôle d'un des banquiers, parce que justement, il y a ces petites scènes de banque et je joue un de ces banquiers.
D'accord, ça marche.
Et du coup, comme Arsène, je joue aussi un de ses banquiers. Alors là, c'est mon seul et unique rôle. Donc, je m'occupe de vendre des plans d'épargne et des choses à différents clients. Alors, un client en particulier avec qui je joue tout le long de la pièce. Et on va voir du coup un peu l'évolution de ma position de banquier avec ce client qui va évoluer au fil de la pièce. Et peut-être changer aussi...
Ah oui, il y a une évolution de ce personnage. C'est pas juste un méchant kafkaïen qui respecte la procédure, qui...
Après, il n'en a pas forcément le choix, mais oui.
Ça marche. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant tout simplement de vous, Kéredine Lajam? Qui êtes-vous en fait en tant que metteur en scène? Comment vous vous placez? Quelle est votre expérience?
Moi, ça fait 20 ans que je fais de la mise en scène. Ça ne me rajeunit pas. C'est vraiment exactement 20 ans que je fais de la mise en scène. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le travail, c'est que, par exemple, ce spectacle-là, c'est d'abord, j'oublie jamais le plus important, c'est le divertissement.
D'accord.
C'est-à-dire que les gens vont payer le tram, vont payer du gasoil, ils vont payer le bus, ils vont venir à pied, ils vont payer une place. Je ne pense pas qu'ils se disent, malgré tout ce qu'on dit là, ils vont se dire, on va aller au théâtre pour réfléchir sur la question économique. Non, ils y vont pour passer du bon temps.
Ça me fait penser au film Yannick de Quentin Dupieux, ce que
voilà,
vous dites.
Voilà. En fait, et du coup, ça, je ne le perds pas de vue. C'est-à-dire, j'essaie de donner au spectateur quelque chose où il passe une belle soirée. Et d'ailleurs, dans la pièce, il y a un moment dans la pièce, on va parler de cette question de prendre du plaisir quand on va au théâtre. Donc ça, c'est très important pour moi. Et du coup, j'essaye toujours de dire, je dis toujours cette phrase qui est une phrase d'un grand écrivain algérien. Je dis toujours dans mes spectacles, je donne à l'oreille à voir et à l'œil à entendre. C'est-à-dire que ce spectacle-là, par exemple, notre pièce, des personnes non-voyantes peuvent venir voir le spectacle parce que le texte est tellement magnifique et tellement beau et il crée des images qu'on peut fermer les yeux et écouter le texte.
D'accord.
Mais je dis aussi, je donne à l'œil à entendre, c'est que j'aime bien que ça soit visuel et qu'on ait des belles images. Là, par exemple, sur cet spectacle, on a un plateau nu, j'utilise des tables, mais avec les lumières, le son et ce qu'on va essayer d'imaginer, c'est que visuellement, ça a de la gueule. Donc, pour moi, c'est comme ça que je me définis. Je veux donner du plaisir et c'est tant mieux. C'est les gens, en sortant, ils sortent déplacés.
Il faut divertir le public pour pas que l'un d'entre eux prenne en otage toute la salle.
Non, il faut quitter. Si quelqu'un quitte la salle, c'est que ça a provoqué en lui quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne quitte pas. Quand on s'ennuie, on s'endort. Si on sort, il faut qu'on se pose la question pourquoi on est sorti.
Est-ce qu'on a été choqué?
Qu'est-ce qui a bougé en nous? Mais voilà, pour moi, ce spectacle-là, je suis très content parce que nous-mêmes, on rit. on passe des bons moments pendant les répétitions. On rit énormément. Donc, je pense que si nous, on rit entre nous, tout ça, on a vraiment envie de partager ce temps, ce moment plaisant. Et en même temps, ce que je voudrais dire juste avant que j'oublie, c'est que aussi, je fais un théâtre où le spectateur est actif.
D'accord.
Dans la pièce, les spectateurs sont interpellés.
Ok.
Ils ont un rôle à jouer. Voilà.
Alors, pour terminer, je voudrais vous demander comment vous vous êtes approprié cette pièce de Jonas Hassen Kemeri en tant que metteur en scène et en tant que comédien.
Bah, c'est très large comme question, parce que c'est ce qui est bien avec le théâtre, c'est que c'est toujours vivant. Et que d'un metteur en scène à un autre, ça va changer. D'une troupe à un autre, ça va changer. Mais même d'une représentation à une autre, ça va changer. Et c'est un peu s'approprier le texte chaque fois qu'on le joue. Mais comment précisément? Parce que c'est un peu tout. C'est l'ensemble, c'est le jeu, la mise en scène. C'est très large, du coup c'est un peu compliqué de répondre.
Karine, vous vouliez ajouter quelque chose?
En fait, comment j'ai travaillé avec eux dans la direction d'acteurs, c'est que en fait, cette pièce, elle est d'une actualité incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des phrases, des mots que même eux, ils auraient pu les dire. C'est-à-dire, les situations à lesquelles sont confrontés les personnages, c'est des situations à laquelle ils sont confrontés tous dans Atom. Ils se regardent, parfois je les vois se regarder parce que ça leur parle, c'est des choses qui leur parlent au quotidien. C'est-à-dire, quand un jeune, on a un personnage, quand il va à Pôle emploi et comment il est accueilli à Pôle emploi, France Travail, quand il va à France Travail et comment il est accueilli, c'est des choses qui sont, pour certains d'entre eux, de l'ordre de... Et du coup, épuisé dans leur expérience personnelle, dans des choses, dans des sujets qui les touchent. Donc, c'est ça qui était important. Cette pièce, elle est d'une actualité brûlante. C'est-à-dire que cette pièce nous montre l'envers du décor. Aujourd'hui, on parle d'une réforme du chômage, on parle des chômeurs, mais est-ce qu'on connaît c'est quoi le parcours d'un chômeur? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut punir. Et la pièce parle de ça. La pièce parle de cette chose-là, comment on essaie de punir le SDF, le mendiant. Je dévoile pas beaucoup de choses, mais ce type qui est en train de mendier, tout le monde le regarde comme un fainéant, comme quelqu'un. Il y a même un personnage qui l'harcèle en disant bouge-toi. Mais on se pose jamais la question qu'est-ce qui fait qu'il est là? Qu'est-ce qui fait qu'avant de dire le chômeur,
qu'est-ce qu'il était avant aussi?
Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il était avant? Et avant de dire il y a trop de chômeurs et machin, il faut. Mais pourquoi il est chômeur? Qu'est-ce qu'il fait? Donc cette pièce, comment on se l'est approprié? On se l'est approprié avec notre quotidien.
Jouerai donc cette pièce. Tu voulais ajouter quelque chose.
Ce qui ne fait qu'on s'approprie aussi, c'est comme l'a dit Erdine, on a plein de parcours dans cette pièce. Et ce qui rapproche aussi, qui est en plus l'approprier avec la troupe, en fait, parce qu'on a une troupe qui est très hétéroclite. Comme je l'ai dit, on a des étudiants, des personnes qui sont de plein de parcours différents. Donc on va aussi retrouver un peu notre troupe dans les expériences qui sont tellement diverses dans nous en tant que comédiens. Et après, dans cette pièce qui va représenter plein de parcours différents, et on va pouvoir peut-être s'y reconnaître en demandant aussi à notre voisin de la troupe. En parlant aussi entre nous.
Vous jouerez donc cette pièce presque égale à Eve le 9, le 10 et le 12 avril. Vous ne la jouerez qu'à Eve d'ailleurs?
Oui, en fait la pièce elle se joue le 9, 10, 11. Le 11 c'est à 18h30.
Oui. D'accord.
Et le 12, donc le 9, le 10 et le 12 à 20h30 et le 11 à 18h30.
D'accord.
Et ça rejoue après parce que moi j'aime beaucoup Atom, je suis vraiment un fan de Atom parce que c'est rare de rencontrer des jeunes comme ça passionnés qui portent, qui essaient et qui ont cette exigence. C'est-à-dire faire appel à un metteur en scène professionnel, c'est aussi aller trouver les moyens de s'offrir le regard et le travail d'un professionnel. Et la pièce sera rejouée au mois de mai dans le cadre des RTU. Parce que Atom porte aussi un festival, un temps fort où il y a plusieurs troupes amateurs d'universités, d'autres villes.
Oui, RTU, c'est rencontre de théâtre
universitaire. D'accord. Ils viennent de plusieurs villes où ils présentent et c'est des temps de rencontre entre des jeunes étudiants passionnés de théâtre. Et du coup, on rejouera cette pièce dans le cadre des RTU le 24 mai. Et le RTU, c'est du 21 au 24.
Eh bien, merci beaucoup Arsène et Théophile de Latoum, ainsi que vous, Kéredine Lanjam, pour nous avoir parlé de votre représentation de cette année, presque égale à le 9, 10, 11 et 12 avril à Eve. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour les cinéastes en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Mickey 3D, Mimoun. Si encore une fois, la souris va bien fonctionner. Thank you.
Mimoun, il fait des trous dans des cartons. Tous les matins, il va pointer dans l'usine où ça sent pas bon, où tout le monde fait que tousser. Il sait pas très bien d'où il vient. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est pas français. Il aurait bien aimé pourtant, mais les gens font que de l'éviter. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit « Mon gars, t'arrête pas ». Mimoun, il a bientôt 40 ans, mais il est toujours chez sa mère. C'est parce qu'elle est un peu malade depuis qu'elle a perdu son père. Et comme c'était lui le plus grand des fils, il est parti bosser à l'école. Il se débrouillait bien, l'aurait bien voulu continuer. Comme si la vie s'était posée sur lui en lui disant « Toi tu bouges pas, les trucs jolis, c'est pas pour toi ». Qu'il est déjà mort, c'est sa façon de s'évader. Et comme il y croit plus très fort, il dit qu'un jour il va se tailler les veines plutôt que de s'en aller pour être ailleurs, un étranger qui fait peur à la ménagère et qui occupe les policiers. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit « Mon gars, t'arrête pas ». Si la vie s'était posée sur lui en lui disant « Toi tu bouges pas, les trucs jolis, c'est pas pour toi ».
Retour dans l'amphi. Normalement, nous devions avoir une chronique étudiante de Maxime, mais malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Donc, à la place, je vous propose qu'on se quitte en musique avec Greta Van Fleet, Black Smoke Rising.
Oh!
Merci d'avoir suivi l'Amphi, on se retrouve mercredi 10 avril et on retrouvera Lucas Morisseau, jeune réalisateur que nous avions déjà reçu et qui nous tiendra au courant de l'avancée de son projet de court-métrage « La chaleur des iris ». À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi, l'émission étudiante.
Étudiante.
Radio Alpa, l'alternative.